One, two, three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-Bang, baby. Too low death, nigga, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. And at the same time, burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended.
Yeah.
And that's realer than real deal, Holyfield. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, and it's like that and like this and like that. And it's like this and like that and like this, Santa. Drake creep to the mic like a fan.
Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seat. You've never been on a ride like this before.
Bonjour, bonsoir, c'est Angéna. Bienvenue sur le podcast de Laurel pour la deuxième partie du cinquième épisode, S'orienter. Il est 14h41, on est le dimanche 10 mars, donc il s'est passé un peu beaucoup de temps depuis le premier la première partie de cet épisode. Mais voilà, c'est reparti. Donc, la dernière fois, j'ai fait du tout début, on va dire, à la fin de la maison d'enfant. Et maintenant, je vais du coup reprendre avec le CM2. Alors, en soi, en termes de... Je sais même plus comment dire ça, parce que je sais même pas comment j'avais dit les choses exactement au départ, mais... Concernant tout ce qui est... vie amoureuse, même... je sais pas comment dire. Voilà, orientation amoureuse, bidule, chouette. En scène 2... C'est pas passé grand chose en soi. Après, c'est juste que. Donc, en gros. Il s'est un peu passé la même chose qu'en CE2, ou en CM1, je sais plus. En CM1, je crois. Je crois la moitié de l'année, j'étais assise à côté de filles, je crois, un truc comme ça. Et à un moment donné, j'étais assise à côté de... La maîtresse a décidé de changer les places. Typique, parce que... je dis typique parce qu'il y avait des élèves qui... des gens dans la classe qui faisaient du bruit et papotaient, etc. Du coup, elle voulait les éloigner pour qu'ils soient moins chiants, quoi. Sauf que, l'élève... vraiment, j'étais l'élève... À peu près toute ma scolarité, je suis la genre d'élève qui ne parle pas la plupart du temps. Genre qui parle pas, qui reste calme. Genre j'emmerde personne, moi. Surtout pas les profs, en tout cas. Et le truc, c'est que du coup, elle m'a mis à côté de Benoît de Oliveira. Du coup, son nom et son prénom. Vous avez son prénom et son nom entier. Je m'en souviens encore. Et en vrai, on s'est bien entendu. Assez rapidement, je l'ai commencé à l'apprécier. Parce qu'il était plutôt bon vivant. Enfin, il avait un côté bon vivant, genre drôle et bon vivant. C'était sympa d'être à côté de lui. Je sais pas quoi raconter exactement, mais une anecdote en particulier, c'était quand on avait appris une chanson... de Renaud, mais pas une chanson, enfin, pas une des meilleures des chansons de Renaud. Enfin, c'est la chanson, c'est L'Oranger. Nanana. Putain, je sais même plus quoi ça. Je sais même plus la mélodie. Mais c'est un peu le truc larmoyant. Et à la Bourgogne, un peu beaucoup. Mais on était trop à fond. En fait, il faisait une sorte de chorale. Enfin, on chantait des chansons de temps en temps. Parce que la maîtresse nous faisait faire ça, ce qui était plutôt fun. J'ai toujours aimé ça. Et du coup, vraiment, Benoît et moi, on était tellement à gueuler. Je crois qu'on était limite en train. On chantait le plus fort possible, tu vois. Ça devait être tellement drôle à voir. Je pense que si j'étais pas avec lui à ce moment-là, genre, j'aurais pas chanté aussi fort, mais c'est juste parce que voilà. On était un peu dans le même délire sur certains points. Et à un moment donné, comme je l'appréciais pas mal, et beaucoup, on va dire même, je me suis demandé et j'ai commencé à me dire que ça devait être de l'amour, quoi. Et du coup, je me suis demandé et tout, je me posais la question. Et je crois que enfin, c'est tellement décousu ce que je raconte, mais en même temps, je sais plus. Enfin, je m'en souviens plus. Je m'en souviens pas exactement quoi. Je me souviens juste que un soir, alors que j'étais en train de me faire mon petit délire à me dire, ouais, je suis amoureuse de lui, trop bien. À un moment donné, un soir, j'ai dit à mon père que j'arrivais pas à dormir et je lui ai dit, ouais, c'est parce que je me pose la question, enfin machin, un truc. Et j'ai demandé à mon père, c'était quoi, ça voulait dire quoi l'amour, enfin c'était quoi la définition de l'amour, comment on savait que c'était de l'amour, quoi. Et bon, je vais tout vous raconter, enfin de notre conversation, enfin, putain. Je sais plus parler, c'est une horreur. Enfin bref. Ce que m'a dit mon père ce soir-là, et qui m'a assez marqué, et qui fait un peu la base de ma définition de l'amour aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est qu'en gros, l'amour, ça pouvait être quelque chose. L'amour romantique, hein, on va préciser. L'amour romantique, c'était quelque chose de. Enfin, c'était à moi de me faire ma propre définition, parce que enfin, les gens, parmi les gens, chacun a sa propre définition, et c'est quelque chose de personnel en soi et qui, c'est important que chacun ait sa propre définition. C'est pas quelqu'un qui peut vraiment nous le définir à notre place. Il m'a dit que souvent, dans la culture et au niveau culturel, dans les films, les machins, les livres, etc. Et dans la société en général, on a un peu des idées, une idée préconçue de ce que c'est l'amour ou une relation amoureuse. Dans souvent très, on a un peu, il y a un peu cette image d'amour passionnel ou d'amour total, un peu extrême. Et qui n'a pas besoin de. Enfin, peut-être que ça change au niveau culturel à l'heure actuelle, parce que justement il y a des gens qui en parlent, mais il y avait un peu cette image de. Il n'y a pas besoin de mots quand on aime, se comprend. Lien magique. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il fallait faire attention au fait que. Ben, au fait que ben, c'était un peu quelque chose d'irréel, quelque part, cette construction du sens d'amour dans la société globalement, au niveau culturel. Et il m'a dit que c'était malsain. C'était un petit peu malsain. La conception dominante de ce que c'est l'amour romantique. Globalement, ouais, c'est assez malsain. Et que, en fait, il fallait faire attention à ce qu'on cherche à mettre en place dans nos relations avec quelqu'un d'autre, dans notre relation avec quelqu'un d'autre, par exemple, avec qui on a envie d'être dans une relation amoureuse. Parce que on peut facilement à chercher à reproduire, entre guillemets, les histoires romantiques qu'on a vues dans des infimes, dans des films, dans des livres, ou juste comme on baigne dans cette culture, dans notre société, ben, juste essayer de reproduire ces concepts dominants. Et on peut avoir le souci à faire ça, c'est que finalement on peut se retrouver à nous et notre partenaire à chercher à coller à cette image, donc à des apparences quelque part, enfin à une image entre guillemets, une image, un tableau, et finalement plus être en train de vivre et d'être en train d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face et à l'écoute de nous-mêmes et dans la réalité quoi. On pouvait finir par... En fait, ça pouvait devenir un délire à deux, quoi. Et que, ben, peut-être qu'au début, ça pouvait fonctionner, et que ça pouvait avoir l'air tout beau, tout bien, etc. Mais que, assez facilement, ou à un moment donné, il y allait avoir un problème parce qu'il y allait avoir des éléments dissonants entre les deux personnes, quoi. D'où l'importance d'essayer de d'être avec la personne et d'être en train de construire quelque chose de quelque part de personnalisé à deux, quoi. Notre relation, c'est la relation entre moi et un tel et une telle. Et pas chercher à reproduire une image ou un truc, même si ça a l'air d'être un beau tableau, ce qu'on a vu dans un film, etc. C'est important de... Je sais pas comment dire. Enfin, j'essaie d'exprimer, de retranscrire ce qu'il m'a dit à ce moment-là. C'est pas facile. Mais... Oui, il y a ce côté de faire gaffe, quoi. De pas se perdre dans des images et dans des apparences, finalement. Parce que ça revient à des apparences, au final. Et d'essayer de vivre les choses et d'être soi-même. Pas parce qu'il faut vivre quelque chose de grandiose ou parce que nous on veut vivre le grand amour, le grand machin, où il y a un peu cette sorte d'exagération, où il faut que ce soit qu'on ressente des choses extrêmes et que ce soit extrêmement incroyable, etc. À rechercher des sentiments extrêmes comme ça et à se. Et à se les créer. Si on se... Des fois, certes, l'amour, ça peut être quelque chose d'intense en soi à ressentir, mais il faut éviter de se le créer de toutes pièces, quoi. Il faut éviter de se le créer en soi-même, de se créer en soi-même des sentiments, etc., etc., qui soient artificiels, entre guillemets. Parce qu'on veut se rattacher à une image, un beau tableau qu'on a vu dans un film, dans des films et dans des livres, etc. Il y a ce côté de... Ouais, enfin, je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Il m'a mis en garde sur ça, que des relations amoureuses, ça pouvait rapidement devenir malsain. Si finalement l'amour qu'il y a entre ces deux personnes, ça revient à un délire à deux. Et quand je dis délire, c'est dans la même, c'est la même, c'est parce que mon père, dès que des, mon père, c'est à cause de mon père si je dis délire, mais mon père, dès qu'il y a une personne toute seule ou plusieurs personnes qui se créer leur propre qui comment dire qui modifie leur perception de la réalité pour que ce soit par rapport à leurs envies et leurs désirs ou leurs juste des idées qu'ils ont, genre des concepts qu'ils ont. Si tu commences à vouloir à réguler tes émotions et tes sentiments et tes actes, etc., par rapport à une réalité modifiée, entre guillemets, en fonction de ce que t'as envie, quoi. Là, c'est ce qu'on appelle un délire. Parce que t'es pas en train de chercher à avoir à savoir ce qu'il en est, quoi, à être dans la réalité, à être dans l'écoute de ce qui t'entoure, à chercher à mieux percevoir ce qui t'entoure, à demander aux autres, par exemple, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils se sentent. S'il n'y a pas une démarche d'interaction vraiment et d'échange et de va-et-vient entre toi, ce que tu as l'impression de comprendre de ce qui t'entoure et de ce qui t'entoure, il y a un gros risque que tu te mettes à délirer parce que du coup, tu te crées une réalité totalement décalée de ce qui t'entoure, de ce qui est vrai, quoi, enfin, de ce qu'il a, quoi. Après, il n'y a jamais de vérité. Je veux pas dire que non plus qu'il y a une vérité en soi, qu'il y a ce qui nous entoure, il y a une vérité, il y aurait une perception ultime de ce qui nous entoure et qu'on pourrait dire ça, c'est la vérité. Il n'y a pas ça. Il y a beaucoup, beaucoup de points de vue différents sur une même réalité et de grilles de lecture, etc. Et c'est pas un problème en soi, mais il faut éviter de se construire des choses de toutes pièces, quoi, de artificielles. Là, c'est là que ça devient dangereux. Tant qu'il y a la volonté et les efforts derrière pour chercher à être en lien avec le réel et en lien avec les autres, quoi, là, tu devrais pas être en train d'errer. C'est ça l'histoire. Enfin bref, du coup, voilà, quand je dis que il y a un risque pour. Enfin, que ce qu'il m'avait expliqué, c'est que. Dans certaines relations amoureuses, certaines personnes qui se disent, enfin qui sont en couple, etc., etc. Des fois, ça peut finir par être très violent psychologiquement, etc. Parce que à cause de ce côté de vouloir appartenir au concept dominant de ce qui est considéré comme étant de l'amour par la société globalement, et ça peut devenir malsain ou être malsain depuis le début parce qu'il y a ce côté de si parce qu'il y a ce côté de se faire un délire à deux, quoi. Sauf que quand on se fait un délire à deux, c'est pas tout simple, à moins qu'il y en ait un qui domine l'autre et qui n'emprise sur l'autre. Des fois, deux personnes qui délirent, et leur délire, ils divergent, ils sont plus les mêmes. Au départ, leur délire, ça peut ressembler assez pour que ça va et que ce soit cool pour eux deux et qu'ils soient contents. Mais à un moment donné, à fur et à mesure que le temps avance, etc., et que la relation, se prend de la place sur le temps, leur délire, le délire de la personne A et la personne B, risque fortement de changer, enfin de pas de changer, mais ils vont finir par voir la différence, les différences entre leurs deux délires, parce que, enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais oui, enfin, à un moment donné, on peut essayer de délirer à plusieurs, mais à moins d'être vraiment sectaire. Et donc, qu'il y ait des rapports de domination, des rapports d'emprise, où on cherche à imposer à l'autre nos délires. C'est compliqué de s'entendre sur les délires. Parce que justement, c'est quelque chose qui est très lié à à nos envies, à notre. C'est quelque chose qu'on décide quelque part, nous, personnellement, intimement, enfin, dans. À l'intérieur, quoi. Et c'est pas forcément facile de se rendre compte que l'autre, en fait, au départ, on croyait qu'il avait le même délire que nous, mais en fait, que non. Et du coup, ça revient finalement à se dire, en fait, je croyais avoir trouvé le bon, mais non, j'avais pas trouvé le bon. En fait, il a pas le même délire que moi. Merde, alors, faut que je trouve une autre personne. Peut-être que si je cherche assez bien, je vais trouver quelqu'un avec le même délire que moi. Youhou, on y croit. C'est un peu ce côté-là, je veux pas me moquer, mais il y a un peu ce côté-là et c'est problématique. Et ça peut apporter beaucoup de complications Alors qu'en soi, on n'a pas besoin de compliquer les choses dans la vie, je pense. Elles sont déjà assez compliquées comme ça, voilà. Enfin bref, du coup, j'ai un peu beaucoup raconté plus que nécessaire, mais il m'avait expliqué ça, mon père, de faire attention à ça, et il m'avait dit aussi que c'était important de. Que c'était quelque chose que d'un côté, premièrement, l'amour, c'est quelque chose qui se définit tout seul de notre côté. Donc chaque personne définit ce que c'est pour elle l'amour et décide de ce que c'est. C'est comme quand il me disait, un père, c'est quoi? C'est moi. Ça peut paraître très égocentrique dit comme ça, mais il disait que, en gros, on décide du sens des mots par lequel on se qualifie. On le décide nous-mêmes. Par exemple, par exemple, une autre personne, un autre père dans une autre famille pourrait se dire, être père, pour moi, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et pour lui, être père, ce serait lui. Ce serait ce qu'il fait, quoi. Et c'est tout à fait vrai. Sauf que, en soi, c'est pas le but n'est pas forcément d'avoir une définition de père égale et qui soit la même pour tout le monde. En soi, être père, c'est avant tout le fait que c'est il a participé à. J'aime pas ce mot, mais géniteur, quoi. Il a participé à ce qu'un enfant soit né, quoi. À égale part avec la mère, hein. Mais sinon, tout ce qui est social, tout ce qui est relation avec l'enfant, en soi, donc là, c'était moi dans le cas avec mon père, en gros, c'est mon père qui définissait ce que ça voulait dire père pour lui, est-ce qu'il voulait être en tant que père par rapport à moi? Et c'est très bien comme ça. Et il me disait, dans la même esprit, dans la même logique, le sens que ça a ton prénom, Angelina. Enfin, toi, t'as pas cho t'as, j'ai pas choisi mon prénom, tu vois. Enfin, vous voyez. J'ai pas choisi mon prénom, c'est ma mère qui l'a choisi sans mon père. Bref, c'est une autre histoire. Pendant une partie de ma première enfance, mon enfance, au début, je pense que j'aimais bien ce prénom, mais j'ai fini par ne plus tellement l'aimer, quoi. Pas non plus le détester, quoi, mais juste pas avoir l'impression que c'est moi et aussi trouver insupportable. Enfin, j'ai tendance à trouver insupportable les gens qui à chaque fois que je leur dis que je m'appelle Angina, ils font Angina jolie, vas-y, va te faire. Non mais arrêtez les gens. Genre, maintenant ça va mieux, je trouve ça moins insupportable, mais vraiment à un moment donné j'ai trouvé ça tellement insupportable. Mais enfin bref, tout ce qu'il voulait dire c'est que mon père il a déjà pu me dire que le sens que ça avait mon prénom entre guillemets, c'était moi, c'était ce que j'en faisais, ce que je décidais d'être et que je pouvais être fière. Il y avait une certaine fierté à avoir. Dans les qualiques, dans les mots dont on pouvait se qualifier, par exemple, je sais pas, tu peux te qualifier d'élève au collège, tu peux te qualifier d'élève au lycée, j'en sais rien. Il y a plein de manières de se qualifier, mais de caractéristiques qu'on a. Mais il y a un côté important à être fier de ce qui nous qualifie quelque part et à l'investir quelque part, investir ces mots-là et pas à chercher à coller à une image qui serait universelle alors qu'il n'y a pas d'image universelle. Enfin, il n'y a pas de. En soi, il n'y a pas de sens universel à est-ce que c'est être père. Il n'y a pas de sens universel à est-ce qu'être une fille de quelqu'un. Dans le sens filiation, je veux dire. Il n'y a pas de sens universel à ça. C'est des mots qui sont assez génériques en soi, parce que ça regroupe plein de gens qui sont. Il y a plein de gens dans le monde qui sont pères, il y a plein de gens dans le monde qui sont des filles de quelqu'un, mais En soi, le sens plus précis, c'est vraiment unique en soi à chacune des personnes qu'il est. Et c'est à chacune de ces personnes de se définir. Enfin, voilà. Enfin bref, je me perds tellement dans des détails, mais ce que je veux dire, c'est que dans le même veine, dans le même délire, bon là, j'entends le délire au sens positif, dans la même logique, mon père il m'a dit que donc c'était à moi de définir ce que ça voulait dire l'amour pour moi. Et soit tu définis ça tout seul, mais après la question est de savoir ce que tu veux partager avec l'autre personne. Ça, c'est une question qui se pose en général pour tout le monde en soi. Dès que tu veux être plus que une connaissance avec quelqu'un, finalement, la question de qu'est-ce que tu as envie de partager avec cette personne, elle se pose souvent, quoi. À chaque fois, quoi. Soit on sent que ce soit un gros problème la plupart du temps, parce que la plupart du temps, on n'y réfléchit pas non plus que ça, mais finalement, c'est la même question qui se pose quand dans une relation amoureuse. Et donc, si l'autre n'est pas obligé d'avoir exactement la même définition de l'amour que toi, ou d'avoir la même définition forcément, mais tant que vous communiquez ensemble, que vous exprimez l'un l'autre, que vous dites les choses explicitement, parce qu'implicitement ça fonctionne pas, quand vous dites les choses, que vous dites, ouais, moi, il y a ça de ça pour important pour moi, et puis j'aimerais bien qu'on fasse ci et ça ensemble, ce serait cool, ça me plairait, je trouverais ça fun, etc. Et c'est comme ça qu'on est censé, enfin j'imagine, s'entendre et que faire en sorte qu'une relation se passe bien. Et oui, et ce que je voulais dire, c'est que du coup, ce soir-là, il m'a dit aussi que pour lui, en particulier, l'amour, c'était une relation romantique amoureuse, c'était une amitié très forte, genre une amitié très intime, très proche, plus du sexe. Grosso modo. Mais il m'a pas dit du sexe comme ça, il m'a dit, c'est juste un massage spécial, quoi. C'est, en gros, en gros, c'est un certain type de massage, quoi. Le but, c'est de se faire du bien l'un l'autre. Et avec un ami lambda, tu voudrais pas partager ton corps, entre guillemets, ou partager, voilà, comme ça. Mais avec un partenaire romantique, ben déjà, tu peux vouloir faire avoir du sexe, mais du coup, il expliquait comme une sorte de massage, quoi. Parce que le but, ben, c'est de faire du bien, quoi, l'un l'autre. Et d'un côté, au début, je trouvais ça assez drôle, quand même. Enfin, je m'attendais pas forcément à ça comme réponse, quand j'avais posé la question. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de quand même assez positif dans l'idée que c'est le but, c'est de se faire du bien, quoi. C'est comme si c'était un massage, mais un massage spécial, c'est VIP. Non. Je rigole. Non, mais tout ça pour dire, c'est que c'est que sa réponse globalement, enfin. Ça m'a quand même assez marqué, et même si j'ai pas cherché à définir précisément ce que ça voulait dire, l'amour romantique en particulier, enfin voilà, ou quand t'es en relation amoureuse et en couple, quoi, même si j'ai pas forcément cherché à définir et que finalement je me suis mis à chercher à le définir beaucoup plus tard, c'est quelque chose qui est un peu une base, entre guillemets, dans ma tête. Pour ma conception de ce que c'est l'amour romantique, enfin l'amour quand t'es en couple, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que sur le moment qu'elle m'a répondu ça, je trouvais ça intéressant. J'ai pas plus réfléchi que ça, mais c'est resté dans ma tête, on va dire. Et j'ai pas cherché forcément. Enfin, j'en ai pas fait grand-chose par rapport à Benoît de Oliveira. On revient, tu sais, au mec, au départ. Tout ça pour dire que, à un moment donné, on a changé de place, encore. Et Benoît, il est sorti avec une amie à moi. J'étais pas très contente et je comprenais pas d'où ça sortait, mais voilà. Enfin bref, j'étais pas très contente, genre. J'étais juste légèrement pas contente. Après, ça va. Ça a pas duré longtemps. Et après, plus tard, je lui ai fait une lettre, genre, avec du papier coloré et tout, où j'ai marqué je, mais pas avec le truc, avec trois petits, des pointillés, vous voyez, pour. Tu sais, vous voyez les textes à compléter avec des pointillés? J'ai fait ça, j'ai mis je, point, voilà. Et je lui donnais un papier avec ça. Je trouvais ça assez excitant et de lui donner comme ça. Enfin, de faire ça. Enfin, tout le long, dès le moment où je me suis décidée à prendre ma feuille et à faire ça, je trouvais ça excitant. Mais franchement, je trouve ça tellement ridicule quand même. Enfin, c'est ridicule à mort. Mais tout ça pour dire que je lui donnais à la sortie de l'école, du coup, vraiment, je lui ai donné. J'ai fait, tiens! Et puis après, je suis partie. Vraiment, ça a duré. Je lui ai donné en 30 secondes. Et puis après, ben, on est parti de chacun de notre côté, quoi. Pour rentrer à la maison. Et après, il était malade ou je sais pas, il y avait un truc. Du coup, j'avais trop peur que ce soit à cause de moi. Je sais pas pourquoi j'étais trop en train de me dire, mais si, faut, c'est parce qu'il tombe malade à cause de ma lettre. C'est vraiment ridicule. Et du coup, après, à me donner. On était dans la cour de la récré. Il y a un mec, ben, un pote, enfin, de la classe et un poteau à Benoît aussi. Mais je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelait Paul. Ou je crois que c'était un autre. Putain, j'ai oublié qui c'était. Enfin bref. Il y avait un gars, genre, qui m'a dit, ouais, il y a Benoît il t'attend là-bas dans le coin. Du coup, j'étais en mode, oh, il m'attend, c'est gros stress. Tout d'un coup, je suis allée dans le coin de cette cour, le voir, et il m'a dit j'accepte. Je crois qu'il m'a dit ça en plus. Et là, dès ce moment-là, je crois que j'avais déjà abandonné. Vraiment. Après ça, il a cherché à être en mode proche. Genre. Après ça, il était en mode flirt et tout, mais moi j'y étais pas, genre, vraiment, moi j'étais, d'un côté j'étais euphorique quelque part, et d'un autre côté, j'étais en mode fuite, genre j'étais en fait non, j'étais un peu dissociée, presque, j'étais presque dissociée, genre, en mode, presque mettre une distance, parce que genre, et j'arrivais pas, genre, d'un côté je trouvais ça plaisant, mais d'un autre côté, genre, j'arrivais pas à être proche effectivement de lui, entre guillemets. Je crois que ça a duré la journée, un peu quelque chose comme ça. Et puis quelques jours plus tard, alors qu'il se passait pas grand-chose, je crois que il y a. Enfin bref, déjà, il y a Benoît, il m'avait donné un dessin pour. La Saint-Valentin. Je lui attendais pas et j'ai rien compris à son dessin. Je suis désolée, Benoît, mais j'ai rien compris à ce qu'il avait écrit. Genre, en fait, il y avait un. Genre, de ce que j'ai vu, de ce que je me souviens, il y avait un monsieur. Enfin, c'était une feuille blanche à quatre en format paysage, exactement. Et il y avait un. Genre, il y avait un bonhomme. Je sais pas pourquoi je dis monsieur, mais voilà. Avec un sac rempli d'or. Genre, vraiment, le truc, ça fait trop. Ça ferait trop monde de fantaisie, genre, vous voyez les gros sacs avec plein de pièces d'or. Et il y en avait par terre, genre dans l'air, je sais pas. Et il y avait une bulle où il disait quelque chose, mais j'ai rien compris de ce qu'il avait écrit. Enfin bref, il se passait pas grand-chose, non. Il m'avait juste donné ça à la sortie de l'école aussi. Et en vrai, j'étais trop contente, genre, j'étais trop flattée. En plus, je m'y attendais pas, genre. Et surtout, j'en avais tellement rien à foutre de la Saint-Valentin. J'étais tellement pas en train de me dire, ouais, il faut faire quelque chose. Ça n'a jamais été mon délire, la Saint-Valentin. Je crois que ça ne la sera jamais. limite je te fais bon limite si j'étais avec une sortais avec une personne et tout limite je lui fais une Saint-Valentin genre je sais pas tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours ou une fois par semaine c'est pas mal une Saint-Valentin une fois par semaine mais une Saint-Valentin une fois par an voilà surtout que c'est une fête hyper commerciale et de merde mais anyway ce sera pas mon délire ce que je veux dire c'est que c'était mignon quand même. C'était mignon et drôle en vrai. Même si j'ai rien compris à ce qu'il y avait écrit, désolé. Et le truc c'est que je pense 2 semaines après ou un truc comme ça, ou je sais même pas quand, quelques semaines après, on était en sortie scolaire et j'étais. Et en fait, vous voyez, on marchait dans le village là où on était et on faisait une promenade en fait pour voir des. C'était assez sympa, on avait vu. On était allé sur le plateau au-dessus du village. Et on voyait ce qu'il y avait en bas, quoi, etc. Et je sais même plus exactement c'était quoi le truc avec. Enfin, ce qu'elle nous avait fait faire comme exercice, etc. La maîtresse. En soi, les exercices, enfin, le truc scolaire autour qu'on devait faire est un peu nul à chier. Mais la promenade était sympa parce qu'on sortait pas souvent dehors, pour de vrai, quoi, en sortant de l'école. Et, enfin, bref. Du coup, on était en sortie scolaire, mais vite fait, quoi, dans le village. Donc, ça va, dans la ville. Enfin, c'est mini-ville, on va dire. Et on était à la queue leu-leu en paire de deux. Voilà, vous voyez. Le son n'a servi à rien, mais voilà. Et j'étais vers le début. Et là, il y a une rumeur. Genre, déjà, j'entends qu'il y a du bruit derrière. Je me dis, il y a un truc qui va pas, qui est pas normal. Il y a une rumeur qui remonte jusqu'à moi, qui suis vers le devant. Et là, ils disent, en gros, c'est tout le monde qui s'affole à me dire, ouais, en gros, Angelina et Benoît, ils sont ensemble, ils sont en couple. Enfin, un truc du genre. Et ça m'a fait paniquer, genre, vraiment, paniquer de ouf. Après, on est rentré de la sortie scolaire, on est revenu dans la cour de récré, il y avait tout le monde, enfin, genre, le stress, il y a tout le monde, il y a toutes les filles, les machins et tout, qui sont venues me voir, qui m'ont demandé, ouais, ça va, c'est vrai que tu sens, nanana, ben, allez-y, embrassez-vous, allez, embrassez-vous. Et moi j'étais en mode ouh là déjà que j'étais en mode distance avec j'étais assez distante de Benoît alors qu'en soi je m'entendais bien avec lui je l'appréciais et tout voilà. Mais déjà dès qu'il avait dit j'accepte et tout genre j'étais pas mode à l'aise genre vraiment finalement vraiment vouloir faire rien que ce soit quoi que ce soit en fait Et là, vraiment, ça a été tellement le stress, la pression de fou. Et du coup, vraiment, j'ai répété à tout le monde, genre, mais non, j'en vais avec lui, il n'y a rien du tout, arrêtez de me poser la question, cassez-vous! Limite, ça. J'étais vrai, c'était poli, mais voilà, mais ils faisaient trop peur, mais ils font peur, les gens. Puis c'est quoi leur délire? Genre, ça les regarde pas? Voilà. Tout ça pour dire. C'est un peu une catastrophe cette histoire. Et en même temps, je pense, en vrai, ça s'est fini comme ça. Il s'est plus rien passé après, et voilà, ça s'est tassé, et voilà. Mais je pense en vrai que je l'appréciais en vrai et que ça. Genre, c'était un bon pote, quelqu'un auquel je pouvais faire confiance et avec qui je me sentais bien. Mais. Ça pouvait être un ami, mais ça aurait pas pu être mon amour. Mais bon, voilà. Comment mes histoires finissent en casse-pipe? En vrai, ça restait gentil. Ça reste assez léger comme histoire. Mais voilà. Le truc qui s'est passé en CM2. Et là, je vais faire une pause parce que je commence à fatiguer encore. Déjà que je suis explosée de fatigue de base, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps fatiguée. Ouais. Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. Enfin, d'un côté, j'ai envie de dormir, d'un autre côté, j'ai pas envie de dormir. Donc, laissez tomber l'histoire. On va faire une pause avec de la musique. Ça fait déjà 40 minutes que je parle de ça. On va faire une pause avec la musique, anyway. Et non, on va pas faire ça, on va faire mieux. On va faire mieux, beaucoup mieux. On va finir avec de la musique. Ce sera la partie 2. J'ai parlé que du CM2. Ça m'a pris tout ça. On laisse tomber, j'ai expliqué les concepts de mon père et voilà, blablabla. J'ai beaucoup blablaté, je sais pas pour rien ou j'en sais rien, on va finir là et je vais finir l'enregistrement, stopper et ensuite ben, je vais recommencer à parler pour faire la partie 3. Enfin bref, laissez tomber les gens. Ce que je raconte. Je sais pas quoi mettre, on va mettre ça. J'ai flemme de trop chercher pour une de la musique. La prochaine partie, du coup. Pour le coup. Enfin bref, voilà. J'espère que vous faites pas trop chier à écouter ce que je raconte. Enfin bref, même si la probabilité est de 0,1% que quiconque, que une personne écoute. Cet épisode. J'espère que cette 0,1 personne ne se fait pas trop chier à m'écouter. Voilà. Enfin bref, c'est parti, let's go. On va faire la musique pour finir. Let's go.